Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Il est important de remonter aux origines de l'humanité pour mieux comprendre notre histoire, ainsi que celle du monde d'aujourd'hui.
Et le récit de nos origines se trouve dans le livre biblique de la Genèse. Voilà pourquoi nous consacrons du temps pour étudier les chapitres 2 et 3 de ce livre.
Écoutons pour continuer la lecture de Genèse chapitre 3, versets 7 à 13. Ensuite, Yann poursuivra ses discussions en compagnie de notre invité Étienne.
Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu ? » Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?»«
C'est le serpent qui m'a trompée, » répondit la femme, « et j'en ai mangé. »
Merci Sandra. La dernière fois, nous avons appris que le diable, déguisé en serpent, persuade l'homme et la femme de manger du fruit interdit, le fruit de la connaissance du mal et du bien. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur les conséquences de cette décision, et Étienne est de retour parmi nous pour nous en apprendre davantage.
Oui, merci Yann, et bonjour à tous.
Après avoir mangé de ce fruit, l'homme et la femme réalisaient tout à coup qu'ils étaient nus, et ils se couvraient de vêtements cousus avec des feuilles de figuier. Comment expliquer une telle réaction?
La nudité, dans leur contexte, représenterait l'innocence. Toutefois, dès qu'ils eurent mangé du fruit interdit, celui de la connaissance du bien et du mal, ils prirent conscience d'avoir commis le mal. La première conséquence ressentie fut celle de la honte et de la culpabilité. L'homme fut créé avec une certaine conscience qui l'alerte lorsqu'il commet le mal et déclenche en lui un sentiment de honte et de culpabilité. Ce sont de tels sentiments qu'il éprouva après sa désobéissance.
Alors, après la désobéissance, l'homme et la femme perdirent toute innocence. Mais comment expliquer ce désir de se couvrir de feuilles de figuier?
Cette réaction reflète un désir intense, celui de vouloir cacher ses fautes, de couvrir sa honte. D'ailleurs, ce couple réagit de manière semblable lorsque Dieu vint à leur rencontre. L'un et l'autre se cacha parmi les arbres. Ils ne voulaient pas voir Dieu, tant la honte les étouffait. Ils redoutaient de le rencontrer. Ils savaient qu'ils avaient brisé la seule interdiction que Dieu leur avait donnée.
Le fait que Dieu se promène dans le jardin et semble dans un premier temps ignorer ce que l'homme et la femme ont fait paraît bien étrange. Dieu n'est-il pas omniprésent et omniscient? C'est-à-dire qu'il est partout et il connaît tout?
Oui, bien sûr, Dieu est partout et il sait tout. Toutefois, pour s'adresser aux hommes et se révéler à eux, il se manifeste d'une façon qui leur est accessible, afin d'être entendu et compris par eux. Il apparaît donc que dans le paradis, Dieu y était présent sous une forme particulière qui nous est inconnue. Ceci afin de pouvoir parler à l'homme et à la femme et se mettre à leur niveau. Ayant dit ceci, Dieu savait pertinemment ce que l'homme et la femme avaient fait. Les questions qu'il leur posa servaient plutôt à les faire parler, plutôt qu'à découvrir la vérité.
Donc Dieu voulut que l'homme et la femme s'expriment sur ce qui s'était passé.
Oui. Toutefois, malheureusement, l'un et l'autre adoptèrent une attitude qui ne fit qu'aggraver les choses.
Laquelle ?
Ils minimisèrent leurs propres responsabilités en blâmant à tour de rôle quelqu'un d'autre. L'homme jeta le blâme sur la femme. Il alla même jusqu'à accuser Dieu en déclarant « C'est à cause de la femme que tu m'as donnée. » Et la femme, à son tour, rejeta sa propre responsabilité en assurant « Le serpent m'a trompé ». Vous voyez, tous deux eurent la même réaction qui fut « Ce n'est pas ma faute, mais la sienne ». Ils essayaient de cacher ou d'atténuer leur sentiment de honte en projetant la faute sur quelqu'un d'autre. Il y avait du vrai dans leur accusation. Toutefois, l'un et l'autre refusaient d'assumer leur propre responsabilité. La femme n'aurait pas dû se laisser influencer par le diable, elle aurait dû refuser ses insinuations, chose qu'elle n'a pas faite. Il en est de même pour l'homme, il aurait dû dire non à la femme, intervenir plutôt pour la protéger, l'arrêter dans ses fausses déductions. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé.
Et que pouvons-nous apprendre de cette triste affaire ?
Tout sentiment de honte ou de culpabilité est tellement embarrassant. C'est la raison pour laquelle on peut employer beaucoup d'efforts à le cacher. La honte peut même détruire nos amitiés. De plus, est-il possible de fuir loin de la face de Dieu et d'essayer de se cacher devant lui? En minimisant nos fautes et en blâmant les autres, nous rejetons notre propre responsabilité et en arrivons à accuser Dieu plutôt que d'assumer nos torts.
Ces sentiments de culpabilité enlèvent toute paix intérieure, ils troublent la conscience, ils détruisent les relations personnelles harmonieuses. Mais comment éviter la honte?
Tout simplement en évitant de commettre le mal. L'homme et la femme ont écouté le serpent, mais au lieu de rejeter ses conseils, ils se sont laissés influencer par lui. Nous devons apprendre à dire non à toute personne, à tout désir personnel qui nous pousserait à pécher. Il est vrai que nous pouvons subir de très fortes pressions. Nos proches ou bien nos copains peuvent paraître convaincants. Nous-mêmes sommes assujettis à des passions qui parfois semblent indomptables. Cependant, il est toujours possible de dire non, et nous ne devons pas faire de ces pressions et de ses influences des excuses. Et enfin, pour mener ce bon combat, il faut apprendre à discerner le bien du mal, à discerner le vrai du faux. Il faut donc écouter ce que Dieu déclare, ce qu'il a choisi de nous révéler dans sa parole, la Bible. Puis il faut y croire, au lieu de se laisser influencer par les mensonges créés par le doute et les influences négatives.
Merci Étienne pour ces bons conseils. La prochaine fois, nous parlerons d'autres conséquences de la chute, suite à la désobéissance de nos premiers ancêtres.
Oui, c'est exact, Yann. À bientôt et au revoir à tous.
Merci, Étienne. Nous allons passer à présent à notre courte méditation biblique.
Nous venons de parler de la culpabilité et des problèmes qu'elle amène dans nos vies et nos relations avec les autres. Tous, nous commettons des fautes. Par conséquent, ce sentiment de culpabilité hante bien des gens. Que faire alors lorsqu'un tel sentiment de honte nous envahit? Le refouler est impossible. Blâmer les autres est injuste. Un espoir toutefois existe, une démarche à adopter est possible. L'apôtre Jean annonce cette bonne nouvelle dans sa première lettre, du chapitre 1, verset 8 au chapitre 2, verset 2. Hélène va nous lire ce texte et ensuite Bernard nous en apprendre davantage.
Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes chers enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous, en souffrant pour nos péchés. Et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Comment gérer ces sentiments de culpabilité qui peuvent nous ronger de l'intérieur? Nous pouvons essayer de nier leur présence en affichant une bonne image et en soignant notre réputation et notre apparence. Nous pouvons peut-être tromper les autres, mais nous ne réussirons jamais à supprimer notre honte. Comme Adam et Ève, nous pouvons accuser et critiquer nos proches, nos amis, nos voisins, nos collègues, essayer de les blâmer. Mais tout ce que nous réussirons à faire, c'est d'amener des tensions. Tel Adam et Ève, nous pouvons nous cacher de Dieu, ne plus oser nous approcher de lui, nier nos fautes et prétendre que nous sommes des gens bien, trouver des excuses et refuser d'admettre nos torts. Ces réflexes sont habituels et courants, mais ils sont destructeurs. Le texte lu nous montre cependant que nous pouvons adopter une toute autre démarche et une issue positive est possible. En effet, nous pouvons reconnaître nos fautes devant Dieu, admettre nos torts et assumer notre part de responsabilité. Nous pouvons lui confesser nos péchés. Mais qu'adviendra-t-il alors? Selon le texte lu, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Comment ce pardon est-il possible? La Bible, une fois de plus, nous répond « Jésus-Christ, le juste, a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. La grâce de Dieu est un cadeau merveilleux, car par elle, il nous pardonne nos fautes et nous purifie de tout mal. Lorsque nous vivons ce pardon et que nous nous sentons purifiés, alors tout sentiment de culpabilité et de honte disparaît. Lorsque nous saisissons le pardon de Dieu, nous cessons de construire des apparences, de prétendre que nous sommes des gens bien, nous refusons de blâmer les autres et de les critiquer dans l'espoir d'atténuer notre culpabilité. Lorsque nous avons compris le pardon de Dieu, nous ne voulons plus, non plus nous cacher de lui, ni nous enfuir loin de sa face. Nous pouvons au contraire nous écrier, comme dans l'Épître aux Hébreux, « Approchons-nous de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience. »
Merci Bernard d'avoir orienté nos pensées vers Jésus et son sacrifice sur la croix. Grâce au Seigneur, nous pouvons recevoir le pardon de Dieu et vivre libérés de toute culpabilité.
Nous devons nous arrêter là pour aujourd'hui, mais la prochaine fois, nous poursuivrons notre étude de Genèse chapitre 3. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.